Alors, le dernier week-end de rentrée, je n'y étais pas personnellement, mais aborder un sujet très important, qui est le sujet du discipulat. Qu'est-ce qu'être un disciple aujourd'hui ? Alors moi, je n'y étais pas, mais dans ma compréhension des Écritures, être disciple aujourd'hui, ça n'a pas changé depuis 2000 ans. Le disciple ne s'adapte pas au monde, le disciple suit la parole de Dieu. Et j'ai envie de vous poser deux questions ce matin, dont je n'attendrai pas de réponse. C'est juste pour vous. Vous notez dans votre cœur, dans votre tête, sur votre carnet, si vous voulez. Vous notez les réponses pour ceux qui y étaient. Ceux qui n'y étaient pas, ben voilà, vous faites comme moi, vous vous dispensez de ça. Première question, c'est qu'est-ce que vous avez retenu deux mois après de pertinent sur l'enseignement, sur ce qu'est être un disciple ? Qu'est-ce que vous avez retenu ? Voilà, je ne vous demande pas de réponse. Notez-le pour vous-même. Qu'est-ce que vous avez retenu de pertinent ? Au moins une chose, deux, trois si vous voulez. Et la deuxième question, qu'est-ce que vous avez changé dans votre quotidien pour vous rapprocher de ce que l'Écriture dit d'un disciple ? Qu'est-ce que vous avez changé ? Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement pour être un meilleur disciple selon un week-end d'enseignement ? Je crois que c'est trois sessions d'une heure à peu près. Hein. C'est ça, Guy ? Voilà. Donc, juste deux questions. Vous répondez pour vous-même. Je n'ai pas besoin d'avoir la réponse. Pour revenir un petit peu aux Écritures, vous savez que de grandes foules, quand Jésus était sur la terre, de grandes foules suivaient Jésus. Donc, il y avait des adhésions. À un moment donné, il y avait une guérison, il y avait un enseignement. Il y avait des adhésions, puis des retraits. Ça allait, ça venait. Il y avait beaucoup de chaos. Et l'évangile de Jean nous dit au chapitre 12 que beaucoup ont cru en lui, mais à cause des pharisiens, à cause de la religion de l'époque, ils ne le déclaraient pas de crainte d'être exclus de la synagogue parce qu'ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Donc vous voyez, il y avait des adhésions, il y avait des retraits. Et finalement, dans cette cacophonie, dans ce brouhaha autour de Jésus, comment savoir qui serait fidèle ? Alors beaucoup, je vous ai dit, beaucoup ont cru en Jésus, mais à la fin, il n'y avait plus personne. Plus personne. Jésus est mort nu sur la croix, il n'y avait plus personne, et la Bible nous dit, tous l'abandonnèrent. Les derniers qui l'ont abandonné, c'est les onze, puisque Judas était déjà parti. Alors comment savoir qui allait vraiment suivre Jésus ? Parce que Jésus, en fait, il ne demande pas des followers. J'utilise volontairement un mot à la mode. Les followers, les likes. J'ai combien d'amis sur Facebook ? Combien j'ai de followers sur mon compte Twitter ? Alors le président Macron, il en a des millions. Donald Trump, je ne sais plus combien. Mais followers, ça n'engage à rien. C'est juste un petit clic. Ça n'engage à rien. Il faut juste cliquer sur un bouton. Mais Jésus ne demande pas des followers, il demande des disciples. Et le seul terme qui est valable à ses yeux, c'est le mot « disciple ». Aujourd'hui, par exemple, on utilise beaucoup le mot « chrétien ». Mais Jésus, il n'a jamais parlé de chrétien, ça n'existait pas. Le mot « chrétien » est venu après. Jésus, il demande des disciples. Et en demandant des disciples, eh bien, Jésus va devoir définir des critères pour savoir qui allait faire partie de ses disciples. Par exemple, en Matthieu 16... Matthieu 16, c'est la confession de Pierre, bien connue. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et là, Jésus va donner un premier critère. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. J'imagine que vous avez abordé ça lors du week-end. Se renoncer à lui-même, se charger de sa croix et qu'il me suive. Donc, ça veut dire que dès qu'un engagement pour Jésus est prononcé, Jésus doit annoncer la couleur pour éviter les followers superficiels. Parce qu'on peut s'engager, par exemple, il y a des jeunes qui se font régulièrement baptiser, on a encore une promotion de 4 là, il y a quelques mois. Quand on prononce le nom de Jésus, quand on s'engage pour Jésus, eh bien, le risque, c'est de devenir un follower superficiel. Et Jésus, il ne veut pas un follower superficiel. Il ne veut pas de follower superficiel. Il veut des disciples. Alors, c'est quoi un disciple de Jésus, au fond ? Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit sur le week-end, mais j'aimerais revenir avec vous sur des choses très simples. Parce que j'imagine un week-end comme ça, un enseignement, il a été super complet. Il y a eu plein de versets cités dans tous les sens. Et peut-être il y a tellement d'informations que non, on ne se souvient plus de rien. On se dit, ouais, c'est vrai, mais... Et j'aimerais partager avec vous ce matin ce que l'apôtre Jean en a retenu. L'apôtre Jean, il est dit le disciple que Jésus aimait. En fait, la traduction n'est pas très bonne. La vraie traduction de ce terme, c'est le disciple, parce que sinon on pourrait se dire, mais Jésus, il a du favoritisme. Il aimait Jean. Et pourquoi il n'aimait pas Pierre? Et pourquoi il n'aimait pas Matthieu? Et pourquoi il n'aimait pas Matthias? J'en sais rien. En fait, le disciple que Jésus aimait, littéralement dans le texte, ça veut dire le disciple qui se sentait aimé par Jésus. Jean était le disciple qui se sentait le plus aimé par Jésus. Il avait compris ce que Guy nous a dit tout à l'heure, l'amour. Et c'est pour ça qu'on dit souvent Jean, le disciple de l'amour, qui parle de l'amour. Donc j'aimerais partager ce matin avec vous ce que Jean a retenu du critère de Jésus pour le discipulat. Et ça va être l'objet de mon message. C'est le disciple selon Jésus. Donc probablement je vais répéter des choses qui auront été dites dans le week-end, mais je vais essayer de simplifier, vraiment simplifier le propos. Et pour vous avouer franchement, ce message que je vous donne ce matin, en fait c'est vraiment bizarre parce qu'il y a quelques semaines, je me suis réveillé à 4h du matin et je réfléchissais sur Jean 15, le cep et les sarments. C'est un passage qui me trotte dans la tête, je le connais par cœur, donc la nuit quand ça mouline, ça repasse. Et là, il s'est passé un truc un peu bizarre. Pendant 2 heures, j'ai réfléchi à ces textes, j'ai réfléchi à l'évangile de Jean, je me repassais plein de versets. Et puis soudain, le truc s'est dévoilé, mais vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis réveillé après, je me suis rendormi 2 heures après, je me suis réveillé, je me suis dit, tiens, je vais noter, j'ai fait un petit schéma pour essayer de simplifier. Donc je vais vous présenter un petit peu le fruit de ce que le Saint-Esprit m'a confié. Franchement, vous connaissez le psaume 16 qui nous dit, David qui prie, qui dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. La nuit même, mon cœur m'exhorte. » Eh bien, j'ai vécu ça, la nuit même, mon cœur m'exhorte. Je ne suis pas mieux que vous, c'est juste, voilà, le Seigneur a fait une grâce et je me suis dit, je vais profiter de ce qu'on ne m'impose pas un titre de message pour partager ça avec vous. Voilà, vous savez tout. Donc, nous allons essayer de parcourir ensemble l'évangile de Jean pour en tirer cette substantifique moelle. Donc, on a vu ce premier critère déjà, renoncer à lui-même et porter sa croix, c'est dans Matthieu 16. Et on va avoir 3 autres qui sont spécifiques de l'évangile de Jean. Il n'y a que Jean qui en parle de cette manière. Et donc, dans l'évangile de Jean, en fait, c'est un peu comme un entonnoir. C'est-à-dire, ça démarre au départ, il y a plein de gens autour de Jésus. Et puis, on termine, comme je vous ai dit, Jésus termine tout seul. Pourquoi ? Il ne faut pas être étonné. La Bible, quand on lit Romains 3, il nous dit « Personne ne recherche Dieu, tous sont corrompus, tous sont pervertis ». Donc, à la base, on est tous pervertis. On n'est pas mieux les uns que les autres. Personne ne cherche Dieu. Mais néanmoins, le plan de Dieu se déroule parfaitement. Et même si tous les disciples l'ont abandonné, Jésus va les réhabiliter, notamment ce fameux passage de Jean 21 où il va dire à Pierre, m'aimes-tu? Voilà, tous les disciples seront réhabilités, restaurés. Jésus ne tient pas rancœur. Les disciples l'ont abandonné, mais il les a restaurés. Il leur a confié quand même une mission. Il les a remis en selle dans le ministère. Ils ont transmis la parole de Dieu. Et on en est au bénéfice, 20 siècles plus tard, on a reçu nous aussi de quelqu'un la parole de Dieu, et c'est pour ça qu'on est là ce matin. Donc on va mettre en évidence, on va parcourir cet évangile pour mettre en évidence 3 critères clés dont vous pouvez vous souvenir facilement. Et à chaque fois, on va voir que pour être un disciple, il faut franchir une étape. Et lors de cette étape, c'est un peu comme une marche d'escalier, il y a des gens qui trébuchent, qui ne peuvent pas franchir. On va voir cet archétype, on va voir comment Jean a structuré en fait ce propos. Donc on va faire une extraction, c'est une extraction peut-être aléatoire, vous ne serez peut-être pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me confronter, revenir me voir, il n'y a pas de souci. Je vais vous parler de la manière dont j'ai perçu les choses. C'est comme si à chaque fois, en fait, l'entonnoir se récissait. C'est-à-dire, au début, il y en a beaucoup, puis après, il y a une marche, hop, il y en a un peu moins, il y en a un peu moins, il y en a un peu moins. C'est un peu comme les recrutements en entreprise. Il y en a 100, il y a 100 CV, puis il y en a un qui est choisi, quoi. Vous êtes prêts? Allez, on va ouvrir nos Bibles. Je vais vous demander d'ouvrir dans Jean chapitre 8. Donc je ne vais pas afficher les passages. On va lire la parole de Dieu, c'est bien aussi de tourner un peu nos pages ou nos téléphones portables. Enfin, on ne tourne pas les téléphones portables, on glisse. Alors Jean chapitre 8. On va lire à partir du verset 28. Attendez voir, Jean chapitre 8, oui c'est ça, allez, verset 28. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que moi je suis, on l'a dit tout à l'heure, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, adhésion. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Donc un petit peu de contexte. On va travailler donc ce matin sur le chemin qu'il faut prendre pour être un disciple. Vous voyez, un petit schéma, c'est le chemin. Voilà. On monte vers le haut pour être un disciple. Premier passage, Jean chapitre 8. C'est la parole. Le contexte de cet épisode, il faut bien le comprendre, Jésus vient de vivre un entretien avec la femme adultère. Et ça a fait tellement réagir les Juifs qu'il y a une nouvelle controverse. Vous savez que dans Jean, il y a énormément de controverses et de conflits, de tensions entre Jésus et les pharisiens. Et il y a des controverses sur le témoignage rendu à Jésus. Les pharisiens lui reprochent de se rendre témoignage à lui-même. Et Jésus dit, non, mon témoignage est vrai, parce qu'il y a moi et il y a le Père qui rend témoignage de moi. Puis après, ils vont aller le chercher sur sa destination finale. Hein, où vas-tu? Et Jésus va leur dire, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et puis, controverse sur sa vraie nature. Et Jésus va répondre, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez que moi je suis. C'est ce qu'on a lu. Donc, là, Jésus va tester la foi naissante de tous ceux qui ont cru en ses paroles. Il va les mettre à l'épreuve, parce que Jésus ne veut pas des followers, souvenez-vous, il veut des disciples. Donc il va les tester. Et il va leur dire, si vous vous attachez, si vous demeurez dans ma parole, certaines versions traduisent, si vous vous attachez à ma parole, vous serez réellement mes disciples. Alors, c'est quoi s'attacher à la parole et demeurer dans la parole? Ce mot demeurer, c'est un mot très souvent utilisé dans le Nouveau Testament, mais énormément par Jean. Jean l'utilise plus de la moitié de toute l'utilisation du Nouveau Testament, à la fois dans son épître et dans son évangile. Et par exemple, il est utilisé 13 fois dans le passage sur le cep et les sarments. Demeurez en moi, de même que le sarment ne peut être attaché au cep, ainsi vous non plus, vous ne pouvez pas porter du fruit si vous ne demeurez en moi. Donc, dans cette idée de demeurer, il y a plusieurs notions. Le terme grec, ici, regroupe plusieurs notions. Il y a premièrement une notion de lieu. Ce n'est pas du tout le cas ici. Par exemple, dans le début de l'évangile de Jean, les disciples lui demandent, enfin les premiers disciples naissants lui demandent, « Seigneur, où habites-tu ? » Littéralement, « Où demeures-tu ? » Et Jésus leur dit, « Venez, voyez. » Donc cette idée de lieu, ce n'est pas du tout cette idée. C'est plutôt ici l'idée de durée. Ça répond à la question, « Combien de temps ?» Demeurer, c'est combien de temps ? Donc imaginez dans la parole, demeurer dans la parole, c'est pas juste je vais lire la parole une fois et je m'en vais, c'est dans la durée. Combien de temps je vais demeurer dans la parole? Il y a l'idée de loyauté, l'idée d'endurance, de persévérance, de rester debout fermement face à toutes les oppositions. Et vous voyez, quand je vous parle de ça, la parole, certains la reçoivent avec joie, c'est ce qui nous est dit dans la parabole du semeur, mais il ne croit qu'un temps, et dès que survient une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Je cite Matthieu, la parabole du semeur. Donc cette idée de durée, cette idée d'attente, cette idée de persévérance, cette idée d'endurance, c'est ça finalement, demeurer, c'est persévérer. Ça c'est la première notion. Et puis il y a la notion aussi de mise en pratique, c'est je demeure dans la parole, mais j'en fais quelque chose. Ça ne reste pas un acte intellectuel, un acte théologique. je vais à une étude biblique, je fais mon acte théologique, j'ai appris des trucs, j'ai augmenté ma connaissance. C'est pas du tout ça, c'est observer et mettre en pratique. Il faut se remettre en perspective le discipulat de l'époque. Aujourd'hui, la connaissance, elle est intellectuelle. On va à l'université, on fait un master, on passe un mémoire, une thèse, et on est apte au monde du travail. En fait, on n'est pas apte du tout, parce qu'on a tout à apprendre. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Ça s'apparentait à l'apprentissage, le compagnonnage. Pour devenir charpentier, pour devenir plombier, maçon, il faut que je suive quelqu'un qui sait faire, et pendant des jours et des jours, des mois, voire 2, 3 ans, 4 ans, j'apprends mon métier. Donc, le discipulat, aux yeux de Jésus, c'est ça, c'est j'écoute la parole, mais avec cette notion de persévérance, de durée, de mise en pratique, et une fois que je mets en pratique, je continue à garder veillé. C'est ça, finalement. Pour résumer, c'est ce que dit l'auteur du psaume 119, il dit « Je serre ta parole contre mon cœur, je la serre contre mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Alors, demeurez, qui est-ce qui a, je vous ai dit tout à l'heure, on va prendre des exemples de gens qui n'ont pas franchi déjà cette première étape. Eh bien, c'est les pharisiens. Parce que les pharisiens, au lieu de dire « Oui, c'est vrai, Seigneur, tu as raison, il faut demeurer dans la parole. » Eux, ils étaient imbus de la parole. Mais le problème, c'est qu'ils avaient l'amour du monde. Ils avaient l'amour de leur propre gloire. Ils étaient orgueilleux. Ils avaient l'amour de la tradition. Et donc, ces pharisiens-là, eh bien, ils n'ont pas pu franchir cette première étape, demeurer dans la parole. Ils pensaient l'avoir. Ils pensaient être des érudits. Ils avaient fait des écoles bibliques. Ils avaient fait des instituts rabbiniques. Ils pensaient détenir la vérité, ils avaient coupé les cheveux en quatre pour mettre toute la tradition en application avec des règles complètement stupides, du style « Jésus, t'as pas le droit de guérir un malade le jour du sabbat. Par contre, si mon âne tombe dans un trou, oui, il faut que je le retienne, je le sorte du trou. » Donc les pharisiens, ils ont buté sur cette marche. Ce n'était pas les seuls d'ailleurs. Si on revient 2 chapitres plus tôt, en Jean chapitre 6, quand Jésus parle d'un truc complètement absurde, celui qui ne boit pas mon sang et qui ne mange pas mon corps, il n'a pas la vie. Et là, la Bible nous dit, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Il y en a plein qui se retirent. Parce qu'à un moment donné, être disciple, ça coûte. Alors, tant que c'est follower superficiel, un petit clic, ça va. Mais quand c'est plus engageant, là, eh bien, certains butent. Certains butent, et les pharisiens ont buté. Et de nos jours, on peut être très bien pharisien, on peut être très religieux. On peut être absolument accroché aux Écritures, sans en voir le sens, sans mettre de l'amour, comme disait Guy ce matin, sans mettre l'amour de Dieu, et on peut buter comme les pharisiens. Alors en pratique, comment est-ce qu'on peut demeurer dans la parole? Je vais vous livrer mon expérience, elle vaut ce qu'elle vaut, peut-être que vous en avez une autre. La parole de Dieu, quand je me suis converti il y a 35 ans maintenant, ben j'ai commencé à faire des lectures systématiques de Bible. J'ai lu ma Bible de manière systématique, plusieurs fois, de la première à la dernière page, parce que ça m'a donné une vision d'ensemble. Je l'ai lu peut-être, je ne sais pas, 15-20 fois, je n'ai pas compté. Mais je suis à Mickey, à côté de Georges Müller. Vous connaissez Georges Müller ? C'est un des héros de la foi. Il y a un livre qui a été publié. D'ailleurs, je vous le conseille, c'est sorti pour ceux qui n'ont pas le temps de lire. Plein de gens me disent « Oui, mais la parole, c'est bien, mais je n'ai pas le temps. Ben, » Je comprends, mais maintenant, il y a des audiobooks. Et sur BLF, ils ont sorti une application où vous pouvez acheter des audiobooks. Pour ceux qui ont des iPhones, c'est encore mieux parce que ça tombe directement dans vos applications podcast. Donc c'est très facile à lire, il y a des chapitres. Et récemment, donc en faisant des travaux, ben j'ai réécouté la vie de Georges Müller. Vous savez combien de fois il a lu la Bible dans sa vie? Il a vécu plus de 90 ans. 200 fois, de A à Z, 200 fois. Donc vous voyez, moi avec mes 15-20, je suis vraiment très loin. Alors il y a la lecture quotidienne de la Bible. En ce moment, par exemple, je ne lis plus la Bible systématiquement. Enfin, j'ai arrêté, j'ai fait une pause. Je lis en général un chapitre par jour et j'essaye de passer plus de temps dessus et d'en sortir des extraits. Donc dans mon journal quotidien, je note des extraits. Ça me donne des sources de messages, j'en ai je ne sais plus combien, en réserve. Ça me permet d'écrire aussi dans les feuillets des calendriers, méditation quotidienne. Donc voilà, il n'y a pas une manière de lire la Bible. Il y a des gens qui font des groupes de croissance, donc moi je les fais aussi. Alors groupe de croissance, on s'engage à lire par exemple 10 chapitres par semaine ou 15 chapitres par semaine avec un collègue, et puis on se revoit toutes les semaines. Et celui qui a pas, si quelqu'un n'a pas lu, ben, tout le monde recommence la lecture à nouveau jusqu'à ce que tout le monde l'ait lu. Donc ça permet de lire très vite, mais bon, on a moins de temps pour réfléchir. Voilà, il y a plein de manières de lire la Bible, mais en tous les cas, la parole, demeurer dans sa parole, c'est vraiment un geste quotidien. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un acte religieux, c'est une source de vie, quoi. Enfin, je ne veux pas vous convaincre. Si le Saint-Esprit vous convainc que tous les jours il faut ouvrir la parole de Dieu, faites-le. Mais en tout cas, c'est ce que Jésus dit, c'est la première marche. C'est la plus facile. Je vous annonce déjà que c'est la plus facile. Donc le premier critère, c'est la parole. C'est ce que j'appelle la discipline du disciple. On verra les 4 D hein, du disciple. De même qu'on a les 3 A de Sonra, on aura les 4 D du disciple. Vous voyez, c'est facile à retenir. On fera un petit cadre à la fin. Donc c'est la première discrimination, le premier tri. Est-ce que je demeure dans sa parole ou est-ce que je ne demeure pas? Parce qu'on peut très bien, très facilement, pas demeurer dans sa parole. Je sais qu'il y a des gens qui viennent au culte, qui écoutent le message, éventuellement qui écoutent des podcasts, des études bibliques, mais ils ouvrent rarement la parole. Et je ne veux pas juger ces gens-là, parce que de temps en temps, moi j'ai eu des moments de sécheresse dans ma vie où je n'ai pas ouvert la parole. Et Dieu m'en a pas puni pour ça, mais simplement je me suis privé de quelque chose. Et c'est pour ça que En lisant ce passage de Jean, si vous demeurez dans la parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si je veux être un disciple, je suis quelqu'un qui demeure dans la parole avec tout ce que je vous ai expliqué sur la signification de demeurer. Et regardez au verset 51 la promesse qui est attachée. Jean 8, verset 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la promesse de la vie éternelle. Parce que la parole, c'est la vie éternelle. Et Jésus, dans sa prière, hein, je vous ai dit tout à l'heure, Jésus s'est retrouvé tout seul devant le Père. Ça, c'est Jean 17, la prière du sacrificateur, cette fameuse prière sacerdotale, qui dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et connaître Jésus-Christ, c'est connaître sa parole. Donc vous voyez, cette parole, celui qui la garde ne verra jamais la mort, c'est la promesse de la vie éternelle. Premier critère, je vous ai dit, c'est le plus facile. Deuxième critère, on va aller un peu plus loin. On va tourner en Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, on va lire à partir du verset 31. Ça va, vous suivez pour l'instant hein? Bon, c'est pas trop dense, je vous abreuve pas de versets. Jean chapitre 13. Verset 31. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Je lis dans la version La Colombe. Petits enfants, je suis encore pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez, comme j'ai dit aux Juifs. Là où je vais, vous ne pourrez venir. Vous aussi, je le dis maintenant. À vous aussi, je le dis maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je vous ai dit hein, que on avait vu le plus facile. Tu nous as dit, Guy, tout à l'heure, que Dieu est amour. Et pour rencontrer l'amour, il faut rencontrer Dieu. Hein, je reprends tes propos. Alors là, on est dans la chambre haute. D'accord ? La chambre haute, c'est la foule est partie, la porte se ferme. Jésus a terminé son ministère public. Il prend ses 12 dans la chambre haute et il va commencer à leur laver les pieds. Et puis, ils se mettent à table, ils commencent à manger. Mais là, c'est trop dur pour Judas. Judas, il cherchait un chef politique, quelqu'un qui allait pouvoir le mettre en valeur, qui allait pouvoir relever un petit peu son désir de gloire, d'avidité. Et c'est trop pour lui, alors Judas sort. Et Jésus, à ce moment-là, quand Judas est sorti, il est vraiment dans l'intimité avec ses onze, eh bien, il va donner ce deuxième critère. Et là, la marche est vraiment très haute. Parce que le disciple ne va pas être jugé ni sur sa connaissance théorique des Écritures. Il ne va pas être jugé sur les bonnes actions qu'il va faire. Reprenez tout le passage de Paul, 1 Corinthiens 13. Si je faisais tous les miracles, si je donnais mon corps pour être brûlé, si je faisais des tas de choses pour Dieu, si je n'ai pas l'amour, zéro. Une cymbale. Donc le disciple ne sera pas jugé sur ce qu'il fera. Il sera jugé sur le degré d'amour qu'il aura pour les autres. Je vous ai dit que la marche était très haute parce que c'est pas possible. C'est pas possible d'aimer comme Jésus a aimé. Je vous cite Mère Teresa, qui a dit « La plus grande maladie de l'Occident aujourd'hui, ce n'est pas ni la lèpre, ni la tuberculose, ni le sida, ni le Covid, mais c'est d'être non désiré, non aimé et de manquer de soins affectifs. C'est ça la plus grande maladie de l'Occident. » Mère Teresa, qui a fondé la mission de la charité à Calcutta, vous le savez, et elle décrit ce qu'est vraiment l'amour au nom de Jésus. Elle dit « Nous pouvons soigner aujourd'hui beaucoup de maladies. On a inventé des tas de médicaments de traitement, mais l'amour, c'est le seul traitement face à quelqu'un qui souffre de ne pas être désiré, qui souffre de la solitude et qui souffre des soins affectifs. » Et elle continue, c'est facile d'aimer quelqu'un qui est loin, mais c'est pas toujours facile d'aimer ceux qui nous sont les plus proches. En ce moment, je lutte vraiment pour aimer ma maman, qui a fait plein de choses qui la rendraient théoriquement pas aimable. Mais elle est à la fin de sa vie, c'est vraiment un combat pour moi. Mère Teresa rajoute, « Il est plus facile de donner un bol de riz pour apaiser la faim ou donner de l'argent aux pauvres que de soulager la solitude et la douleur de quelqu'un qui n'est pas aimé autour de nous. » Et elle conclut, nous ne serons pas jugés ni sur nos diplômes, ni sur notre argent, ni si les actions extraordinaires que nous aurons faites, mais sur Matthieu 25, 35. Vous connaissez ce passage, le jugement des nations. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été réservé pour vous depuis la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu, vous m'avez vécu, j'étais malade. Et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous m'avez rendu visite. Et les autres diront, mais quand est-ce qu'on a fait ça? Et je passe rapidement les dix versets, vous les lirez, vous les connaissez. Jésus leur répond, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Joseph Pfeiffer, un philosophe allemand du XXe siècle, a montré que la connexion entre l'amour de Dieu pour nous et l'amour d'une autre personne est indissociable. C'est-à-dire Dieu, comme disait Guy tout à l'heure, Dieu nous a tellement aimés qu'en retour, on ne peut qu'aimer une autre personne. Et si on n'aime pas une autre personne, c'est ce qu'on a lu dans 1 Jean 3, ben ça veut dire qu'on n'a pas connu l'amour. On n'a pas ressenti, on n'a pas connu cet amour. Et cet amour, il ne va pas juste nous tomber dessus comme ça, il va nous tomber en lisant la parole de Dieu. Il y a quelques années, j'ai lu le livre de Jérémie, mais de manière très lente. En disant, Seigneur, c'est un livre un peu touffu. On parle de, voilà, c'est la fin du peuple d'Israël, enfin du peuple de Juda, il va être déporté, il y a des catastrophes. On parle de Jérémiade, on dit que Jérémie se plaint tout le temps. J'ai lu ce livre et j'ai refermé, j'ai dit, mais c'est incroyable, c'est un livre qui parle de l'amour de Dieu. Parce que sans arrêt, on voit l'amour de Dieu pour ce peuple rebelle. C'est vraiment, c'est une révélation aussi, vous voyez, quand on lit la parole, un truc un peu touffu, on n'a pas envie, Lévitique, Jérémie, ah ouais, pff, je préfère lire Daniel, c'est plus vite, c'est sympa, il y a une grande statue, il y a les Hébreux qui sont sauvés du feu. C'est plus facile à lire, mais quand on fait l'effort de demeurer dans la parole, il y a des bénédictions qui sont attachées. Donc ce fameux philosophe allemand nous dit que en présence de l'amour de Jésus, quand on peut témoigner l'amour de Jésus à quelqu'un, on l'aide à bourgeonner, littéralement à fleurir. Quelqu'un qui est desséché, qui se sent seul, qui se sent malheureux, qui se sent abandonné, si je manifeste l'amour que Jésus m'a transmis, à côté de lui, je fais bourgeonner cette personne. J'ai envie de prier, Seigneur, me sachant aimé par toi par-dessus tout, aide-moi à rester dans cet amour pour qu'aimer les autres devienne un instinct chez moi, un instinct premier. Et c'est impossible à faire. C'est impossible d'aimer comme Jésus a aimé. Et là, il faut bien comprendre qu'est-ce que Jésus nous demande. Vous savez que dans la Bible, il y a plusieurs mots pour parler d'amour. Et notamment deux mots. Vous avez le mot agapao et le mot philéo. D'accord ? C'est des mots qu'on retrouve dans Jean chapitre 21, lorsque Jésus interroge Pierre en lui disant « Pierre, m'aimes-tu ? » Je ne reviens pas sur ce passage. Philéo, c'est l'amour sentiment. C'est l'amour qu'on va éprouver vis-à-vis d'une personne. On était au mariage d'Aurélien hier, et les deux êtres, ben voilà, ça a fusionné, quoi. Hein. Ils se sont fait leurs vœux, et ils ont un sentiment fort les uns pour les autres. Et vous savez, ceux qui sont mariés, de quoi je parle. Mais c'est un sentiment d'affection. Et Jésus ne nous demande pas d'avoir de l'affection pour tout le monde, parce que ce n'est pas possible. Jésus, il avait un peu plus d'affection, parce qu'il était homme, sans faire de favoritisme, mais il avait un peu plus d'affection pour Jean, pour Pierre, parce qu'il les a pris avec lui. Et ça, c'est OK dans l'Église. Je ne peux pas avoir de l'affection pour tout le monde, donc il y a des gens avec qui je suis un peu plus proche. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous demande ici. Parce qu'il sait qu'on est humain. Quelqu'un avec qui on n'a pas d'affinité, c'est difficile d'avoir de l'affection pour lui. Jésus ne nous demande pas l'impossible. Par contre, ce que Jésus nous demande, c'est agapao. Agapao, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour divin absolu. C'est l'amour qui se donne. Comme Jésus s'est donné pour nous. Il a donné sa vie. On n'était pas aimable. On était loin de lui. On marchait contre lui. On était ennemis. C'est ce que nous dit Romains 5. On était ennemis et Jésus a donné sa vie pour nous. C'est à l'amour agapao, c'est l'amour qui se donne. Et quand il est parlé de « Marie, aimez vos femmes », eh bien c'est ce type d'amour, c'est-à-dire que non seulement j'ai eu du sentiment pour ma femme et j'ai du sentiment pour ma femme, mais en plus, Jésus me demande de faire comme lui, de donner ma vie pour ma femme et pour mon prochain. C'est ça l'amour agapao. Et cet amour-là, c'est impossible de l'avoir si Dieu ne nous le donne pas. C'est Dieu qui peut nous donner cet amour. Donc Jésus ne nous demande pas d'avoir du sentiment pour tout le monde, mais il nous demande d'avoir de l'amour au point de donner notre vie. C'est ça. Et cet amour, on ne peut pas le donner si on ne l'a pas reçu et si Dieu ne nous le donne pas. C'est pour ça que la prière que j'ai citée tout à l'heure, « Seigneur, remplis-moi de ton amour, fais-moi comprendre cet amour, que je le ressente, mais je ne peux pas le ressentir, il ne va pas tomber comme ça. Je vais le comprendre si je lis la parole, quand je regarde les actes de Dieu, je vous ai parlé de Jérémie, quand on voit comment Dieu parle à son peuple, comment son cœur saigne, tout à l'heure Guy a parlé des émotions de Dieu, Dieu est esprit, mais il est capable voilà, en Jésus-Christ, de nous montrer cette notion émotionnelle. Et Jésus était tout sauf un être plat, c'était un être plein d'émotions, qui savait pleurer, qui savait tressaillir de joie, qui savait être attristé, qui savait être angoissé jusqu'à la mort. Et c'est pas possible de recevoir l'amour de Dieu si on ne ressent pas les émotions que Dieu a placées en nous. C'est pour ça que la notion d'intelligence émotionnelle est tellement importante pour comprendre ça et pour vivre cette deuxième marche qui est une marche quasi impossible à franchir si la grâce de Dieu ne vient pas sur nous, si on ne nous le demande pas et si on ne reçoit pas cet amour de Dieu. Alors quels sont ceux qui ont buté ? Ben, c'est Judas qui a buté parce que lui, il n'avait pas l'amour Il n'avait pas l'amour de Dieu, il avait l'amour de l'argent. Il était superficiel. Il cherchait un Jésus qui pouvait prendre le pouvoir. Et il s'est dit, tiens, s'il prend le pouvoir, je suis trésorier, j'aurai peut-être une place au soleil. Et puis quand il a vu que Jésus lavait les pieds, il s'est dit, non, mais je ne veux pas suivre un maître qui s'abaisse plus bas que terre, qui a dit qu'il allait donner sa vie. Ça ne m'intéresse pas. Enfin, là, je paraphrase Judas. Donc, c'est un amour qui est auto-centré. C'est un amour de soi. Judas, c'est l'amour de soi. Donc, la deuxième marche qui va faire trébucher, c'est l'amour de moi. C'est moi, moi, moi. Et aujourd'hui, on est dans une société qui met en évidence le moi, le corps, le culte du corps, le culte du moi, moi, développement personnel, c'est moi, 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 moi. On parle de moi et on ne parle pas de Jésus, toi. Donc en résumé, ce deuxième critère, c'est la dimension du disciple. Et la dimension première du disciple, c'est l'amour. Et je vous ai cité 1 Corinthiens 13 tout à l'heure. Paul terminera 1 Corinthiens 13 en disant « Mais ces trois choses demeurent maintenant, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. » C'est tout. On a fait le tour. Alors vous avez un peu de courage encore pour voir le troisième des critères. C'est un peu une conséquence, un résumé, une paraphrase, une synthèse des autres. On va passer en Jean 15, ce fameux chapitre sur le cep et sarment qui a tourné dans ma tête pendant 2 heures. Bon, je le connais par cœur depuis des années, donc les paroles viennent. Alors on va lire à partir du verset 5, mais vous vous amuserez à compter le nombre de fois où il est dit « demeurer ». Verset 5, « Moi je suis le cep, vous les sarments, celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. » Et voilà ce fameux mot qu'on retrouve ici, et vous serez les disciples. Donc on est dans cet épisode bien connu sur le cep et les sarments. Je ne reviendrai pas sur cet épisode. J'avais fait un message dessus quand on avait étudié l'évangile de Jean il y a 2 ou 3 ans. Vous pouvez le retrouver sur le site de l'église. Mais pour bien comprendre cet épisode, moi je vous suggère d'aller voir un pied de vigne. Qui a vu un pied de vigne déjà de près? Qui a observé un pied de vigne de près déjà? Vous avez vu de près, hein, un pied de vigne de près, je vous le décris rapidement, c'est quoi? Donc déjà c'est tortueux, c'est plein de... il y a comme des peluches, c'est pas un joli bois droit, vous voyez, un bois de noisetier, quand on était gamin, on se taillait des arcs et des flèches là-dedans. Alors dans le pied de vigne, zéro, n'essayez même pas, on peut même pas faire de meubles avec un bois de vigne, on peut rien faire en fait, rien, un bois de vigne ça sert à rien. C'est vilain, c'est tout tortueux, c'est Jésus. Jésus, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais la valeur du bois de vigne, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est la sève. Parce que la sève, c'est ce qui va aller dans les grappes. Et c'est ce qui va donner Château-Brion Grand Cru 1975. Hein? Vous connaissez ça? Donc le cep de vigne, allez voir un cep de vigne. C'est vraiment intéressant parce que vous voyez le cep et puis vous voyez les sarments. Alors le sarment jeune, il ressemble un peu à mon bois de noisetier, bien joli, avec une belle écorce, etc. Ça c'est, quand on est jeune, moi quand j'étais jeune, tout feu, tout flamme pour le Seigneur, la vie est belle, etc. Ah Jésus, on va défoncer le monde pour Jésus, on va témoigner, on est content. Voilà. Et puis au fur et à mesure, la vie passe, et puis on commence à être écorché par la vie. Et ceux qui sont un peu plus âgés, vous savez de quoi je parle. Et vous voyez que progressivement, si vous observez certains bois de vigne, Vous voyez que la base du sarment, là, commence à devenir un peu comme le cep. C'est-à-dire, ça commence à devenir un peu noueux, un peu tortueux. On sent qu'il y a des années de sécheresse qui sont passées. Et progressivement, eh bien, ce vilain tronc, là, le vilain tronc du cep commence à gagner le sarment. Et là, l'image est extraordinaire parce que c'est l'image de Jésus qui commence à rentrer dans mon cœur. C'est-à-dire qu'au lieu de devenir ce jeune pousse tout feu, tout flamme, je commence à devenir un peu comme le cep. Et vous regarderez des bois de vigne, vous voyez, à un moment donné, vous avez des sarments, et progressivement, ça gagne l'ensemble du sarment, Et vous voyez la base du sarment qui devient comme le pied de vigne. Et là, bah, c'est l'image du chrétien qui devient un disciple, qui franchit ses étapes avec douleur. Je vous ai dit, la première, c'est déjà dur. Les autres, c'est quasiment impossible. Mais quand même, par la grâce de Dieu, on arrive à progresser. Et là, et bah, progressivement, il y a un passage qui se fait vers cet aspect vilain. Vous voyez, on commence à cacher notre vie en Christ, comme dit Paul aux Colossiens. On commence à être moins fier, moins orgueilleux, parce que Dieu est en train de buriner notre vie. Il est en train de nous rendre semblables à lui-même. C'est l'objectif, en fait, de la vie chrétienne, c'est que Dieu nous rende semblables à l'image de son Fils. Et allez observer, encore une fois, en ce moment, c'est bien, il n'y a pas de feuilles, et puis les paysans ne sont pas dans les... Donc, allez voir un bois de vigne, vous verrez ce que je vous dis, c'est la réalité. Voilà. Donc, revoyez, si vous voulez, réécoutez le message sur le cep et les sarments. Mais donc, dans ce passage, Dieu va revenir sur les deux critères qu'on a déjà vus. Il va dire « Demeurez en moi, comme je demeure en vous. Comme le sarment ne peut lui-même de porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez si vous ne demeurez en moi. » Et puis, il va rajouter un petit quelque chose, il va revenir encore là-dessus. Au verset 12, vous voyez, il dit « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Et la clé, c'est ça. Parce que si Jésus avait dit « Aimez-vous les uns les autres », Seigneur, c'est impossible. Mais Jésus dit « Comme je vous ai aimé. » Et comment Jésus nous a aimés? On l'a dit tout à l'heure en prenant la scène. Il a donné sa vie pour nous. Il s'est complètement dépouillé. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas de plus grand amour, verset 13, que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand agapao que de donner sa vie pour ses amis. Alors, qui est-ce qui a buté? Ben, c'est les 11. Les 11 ont buté temporairement. Et les 11, c'est un peu nous, c'est l'archétype du chrétien aujourd'hui. C'est-à-dire que la marche, elle est pas trop haute, elle est impossible. La première est déjà difficile, la deuxième, je vous ai dit, c'est impossible, celle-là, elle est impossible, c'est la synthèse des deux. Elle est impossible, mais Jésus a dit dans ce passage, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 5. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ce critère du disciple, c'est Seigneur, je ne peux pas te servir. C'est impossible. Sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, je dépends de toi. C'est l'abandon complet. C'est de dire Seigneur, je ne peux pas. Je voulais vivre ma vie chrétienne, j'avais du zèle pour te servir. Hier, on a discuté avec des jeunes pendant le mariage, je me réjouissais de voir ce zèle qui les habite et c'est formidable, c'est cette spontanéité, cette fraîcheur dont on a besoin. Mais vous voyez, l'archétype du disciple, ben, c'est ça, c'est les 11. C'est les 11 qui, par définition, vont buter, qui vont se heurter à ce problème de persévérance et de fidélité. Pierre qui dit, Seigneur, j'irai vers toi jusqu'à la mort, je te suivrai. Et les 12, et les autres dirent de même. Hein, la Bible nous dit, et les autres dirent de même. C'est-à-dire que, voilà, c'est un peu la présomption. On se croit tout puissant, alors que Jésus nous demande, sans moi vous ne pouvez rien faire, abandonnez-vous à moi. Et je suis là pour vous aider, je vous ouvre mes bras, je vous ouvre mon cœur. Ça rappelle aussi les pseudo-disciples de Luc 9. Là aussi, si vous voulez réécouter le message, il est sur le site. « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus qui répond, « Les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour poser sa tête. Hein, » C'est les 3 pseudo-disciples de Luc 9. De même, nous, si on commence à dire, « Ah Seigneur, super, aujourd'hui j'ai entendu un message sur le discipulat. Aujourd'hui, je suis allé au week-end d'église, je vais être ton disciple. » Si on fait ça, je vais être ton disciple, c'est l'échec assuré. C'est Pierre qui dit, Seigneur, je te suivrai partout. Par contre, si je veux être disciple, je dis, Seigneur, ça c'est trop pour moi, j'y arriverai pas. Mais franchement, dans mon cœur, je veux être ton disciple. C'est un peu la capitulation de Pierre en Jean 21. Quand Jésus lui demande pour la 3e fois, Pierre, m'aimes-tu? Et là, il utilise le mot philéo, alors que les 2 premières fois, il a utilisé agapao. Pierre dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Voilà, tu sais toute chose, je ne sais même pas si je t'aime ou pas, si je suis capable, parce que je t'avais dit que je t'aimais, mais en fait je t'ai abandonné. Mais Seigneur, tu sais toute chose, je m'abandonne à toi. Tu fais ce que tu veux de ma vie, tu m'as donné des dons et des talents, maintenant je vais te servir. Et là, ça peut marcher. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc, le critère ultime du disciple, c'est le fruit. C'est la destinée du disciple, c'est le fruit. Et il n'y a qu'un seul critère pour le disciple, c'est le fruit. Ce n'est pas l'adhésion à une église. Vous voyez le tableau là, il y a des gens qui sont membres depuis 50 ans. Ce n'est pas le critère. C'est bien, c'est super, bravo. Mais ce n'est pas le critère. Le critère de Jésus, c'est le fruit. Quel est le fruit? Parce que le fruit, c'est ce qui glorifie le Père. Et notre vocation, c'est de glorifier Dieu par notre vie, qui nous sommes. Et il y a des tas de gens qui l'ont fait, George Muller, j'ai cité, Billy Graham, qui est décédé il y a 2 ou 3 ans, et plein de héros de la foi qui sont cités, et des héros qui sont dans cette église, qui ont glorifié Dieu dans leur vie, qui sont maintenant auprès du Seigneur. Donc le disciple, il est complètement décentré, il est focalisé et associé au fruit. Alors, on peut faire aussi une parallèle avec la parabole du semeur. Je suis en train de préparer un message sur la parabole du semeur, mais quelque chose de différent. Vous voyez, les pharisiens, c'est ceux qui sont au bord du chemin. Ah, ils sont contents, ils entendent Jésus. Et à un moment donné, la parole ne rentre pas. Et puis, il y a tous les autres. Je reçois la parole avec joie, mais il y a des pierres, je ne peux pas lever. Ou il y a des ronces qui m'empêchent, mes soucis de la vie, etc. Et la bonne terre, c'est ce qui produit le fruit. On y reviendra, Dieu voulant. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire pour nous? Eh bien, pour nous, on est invité à demeurer. C'est le thème clé de Jean, je vous ai dit, demeurez. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et on n'est pas seul, parce que comme je vous l'ai dit, on est entouré d'une grande nuée de témoins. Il y a des gens qui sont passés avant nous, qui ont trébuché, mais qui y sont arrivés par la grâce de Dieu. Et ça m'encourage, parce que devant l'impossibilité, eh bien, Jésus rend la chose possible. Et si j'ai buté ce matin, si quelqu'un se sent repris parce qu'il a buté ce matin sur une démarche, eh bien, on peut venir à lui si nous confessons nos péchés. Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors, si je résume, bon, déjà là, vous avez un bon résumé, vous avez les textes. Il n'y a pas beaucoup de textes, vous voyez, il y en a 3. Hein, c'est toujours le même thème. Le disciple, je vous ai dit, les trois A de sonnera, annoncer la parole de Dieu, accueillir pour faire rentrer, et affermir. Affermir, voilà, on est plutôt dans ce ministère-là. Je suis plutôt, moi, dans le ministère d'affermir plutôt que le ministère d'annoncer. Mais c'est comme ça, hein, on n'a pas tous les dons, il y a plein de gens qui ont d'autres dons. Alors, les trois A de sonnera, on va compléter avec les 4 D du disciple. Je résume, le disciple, il est discipliné par rapport à la parole. Ensuite, la dimension du disciple, c'est l'amour. Et on a vu que l'amour, ce n'est pas un sentiment, c'est ce que Dieu déverse dans nos cœurs. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le troisième, la destinée du disciple, c'est le fruit et la gloire du Père. Donc le disciple, ce n'est pas que la parole. Si vous pensez qu'en faisant de la théologie, vous allez devenir un disciple, il manque quelque chose. Il manque les autres dimensions. La théologie, c'est ce qu'il y a de plus facile. Aujourd'hui, il y a plein de théologies sur Internet. Vous pouvez écouter des messages, des études, tout ce que vous voulez. Mais le reste, eh bien, ça se pratique dans l'intimité avec Dieu, dans le silence. Ce matin, on avait une exhortation dans Méditation quotidienne sur le silence. Se retrouver face à face avec Dieu, face à face avec la parole. Et mettre en pratique cette parole par rapport à mon prochain qui a besoin de moi, qui est à côté de moi. Tout le reste, c'est inaccessible, sauf par la grâce de Dieu. Et la grâce, c'est une faveur que Dieu nous fait, qui n'est pas du tout méritée. D'ailleurs, même lire et comprendre la parole de Dieu, c'est une grâce. Parce que si je la lis comme un roman, je vais en tirer un roman. Je vais me souvenir des belles histoires, Daniel dans la fosse au lion, Josué, qui est face à l'ange, etc. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la grâce et l'amour de Dieu au travers de la parole. Et n'oublions pas que nous sommes chacun des mendiants quotidiens de la grâce de Dieu. Nous sommes des mendiants. Ma prière ce matin, pour moi en premier, et pour vous aussi, c'est de dire, Seigneur, moi j'y arrive pas, mais viens à mon secours. Viens au secours de mon incrédulité, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà, il faudrait compléter ces 4D du disciple par, finalement, la mission que Jésus nous confie, qui n'est ni de fonder des églises, ni de connaître la Bible par cœur, mais d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et vous savez, la plus grosse erreur qu'on peut faire dans cet ordre de mission, c'est de penser que je peux aller faire des disciples sans que j'en sois devenu un moi-même. Parce que c'est facile. On suit un plan d'évangélisation en 25 étapes. Mais si je ne deviens pas moi-même un disciple avec tout ce que Jésus exige, eh ben je suis juste une cymbale qui retentit. On ne peut pas emmener quelqu'un là où on n'a pas été soi-même. Donc, allez et faites de toutes les nations des disciples. En filigrane, Jésus nous dit, mais devenez déjà des disciples. Et pour cela, demeurez dans ma parole. Aimez-vous les uns les autres, car à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et c'est ainsi que mon Père sera glorifié, si vous portez du fruit à sa gloire. Amen. Prions. Notre Dieu, tu es vraiment bon. Seigneur, je n'ai pas grand-chose à dire devant toi, mais je te demande de me faire grâce, parce que je ne vaux pas grand-chose devant toi, et personne ici ne peut prétendre valoir quelque chose. Mais par toi, Seigneur, nous pouvons tout, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, aide-nous à faire grandir cette parole dans notre cœur, et aide-nous à transforme-nous, change-nous par ton Saint-Esprit au plus profond de nous-mêmes. Nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur, parce que le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de voir ce qu'est un disciple dans ces temps de détresse que nous vivons. Seigneur, aie pitié de nous. Amen.